Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très très importante série concernant la rédemption. Et nous arrivons à l'étude numéro 24 et le titre sera « De la réformation jusqu'à nos jours ». Après avoir traversé les jours ténébreux de l'Église, j'en viens maintenant à considérer cette période qui commence à la Réformation et qui s'étend jusqu'à nos jours. Et ici, je remarquerai, premièrement, la Réformation elle-même. Deuxièmement, l'opposition que le diable a fait à l'Église réformée. Troisièmement, les succès récents de l'Évangile dans quelques lieux. Et quatrièmement, le présent état de choses dans le monde pour ce qui concerne l'Église et sa rédemption. Donc, premièrement, nous avons la Réformation. La Réformation commença en Allemagne vers les années 1515 par la prédication de Luther. À la vue des superstitieuses pratiques qui régnaient dans ce temps-là, Luther s'est mis à rechercher diligemment la vérité par l'étude approfondie des Saintes Écritures et des écrits des anciens pères de l'Église. Et il a dénoncé ouvertement et hardiment dans tous ses écrits et dans sa prédication la corruption et les usurpations du clergé. Et bien sûr qu'il y a eu bientôt un grand nombre d'adhérents qui ont compris que c'était la vérité. Et de ce nombre fut l'électeur de Saxe, le prince souverain de son pays natal. Bien sûr que tout cela commença à alarmer l'Église romaine qui rassembla ses forces pour lui résister et qui suscita contre lui même des guerres et des persécutions. Mais malgré cela, la vérité continua de se répandre au moyen des travaux de Luther et de Melanchthon en Allemagne, de Zwingli en Suisse et d'autres théologiens distingués contemporains de Luther, particulièrement de Calvin. Calvin qui apparut après le commencement de la Réformation, mais qui fut un des réformateurs des plus distingués. Plusieurs des princes d'Allemagne ont donc accepté, on dit aussi embrassèrent bientôt la religion réformée, ainsi que plusieurs autres États et royaumes de l'Europe comme l'Angleterre, l'Écosse, la Suède, le Danemark, la Norvège, une grande partie de la France, la Pologne, la Lituanie, la Suisse et les Pays-Bas. De sorte qu'on pense qu'il y a eu un moment dans lequel la moitié de la chrétienté était protestante en ce temps-là. Mais depuis, les catholiques romains ont regagné du terrain. Ainsi, les protestants aujourd'hui ne sont pas dans une si grande proportion comme autrefois. C'est ainsi que Dieu commença à revivifier son Église et à avancer le royaume de son Fils après la nuit profonde qui s'est étendue depuis la formation du mystère d'iniquité jusqu'à cette époque. Les témoins de la vérité avaient fait précédemment plusieurs essais de réformation, mais maintenant, le temps marqué par Dieu était enfin arrivé. L'œuvre commença à progresser promptement, et cela d'une manière admirable. Les pouvoirs de l'Europe ont appris à ne pas mettre leur cou sous le pied du pape. Il est comme un lion qui a perdu ses dents en comparaison de ce qu'il était jadis. Et lorsque le pape et son clergé, furieux de voir leur autorité tellement diminuée du temps de la Réformation, concertèrent leurs plans et unirent leurs forces pour essayer de détruire la Réformation, leur politique qui jusque-là les avait si bien servis, commença à échouer. Alors ils trouvèrent leur royaume si plein de ténèbres qu'ils ne purent rien faire. Ils furent comme les Égyptiens qui ne se levèrent pas de leur siège pendant 3 jours. L'Église réformée fut donc défendue comme le fameux Lot. Rappelez-vous, Lot et les anges qui l'avaient aidé à Sodome et Gomorre, alors que Dieu a frappé les habitants de cette ville de cécité. Et cela de sorte qu'ils n'ont pas pu trouver la porte, car ils auraient voulu entrer dans la maison pour s'emparer aussi bien de Lot et de son ami et de ses anges. Dieu a accompli alors cette parole de Job chapitre 5 verset 11 qui élève ceux qui sont bas et qui fait que ceux qui sont en deuil sont en sûreté dans une haute retraite. Dieu dissipe les pensées des hommes rusés de sorte qu'ils ne viennent point à bout de leur entreprise. Il surprend les sages en leur ruse, et le conseil des méchants est renversé. De jour, ils rencontrent les ténèbres, et ils marchent à tâtons en plein midi, comme dans la nuit. Mais Dieu délivre le pauvre de leur épée, de leur bouche et de la main de l'homme puissant. Ces orgueilleux ennemis du peuple de Dieu, désappointés et incapables de maintenir leur pouvoir et leur autorité, en a été réduits, en quelque sorte, à se mordre la langue de rage. Et deuxièmement, je viens maintenant à montrer l'opposition que Satan et les siens ont faite pour arrêter le succès de la rédemption chrétienne au moyen de la Réformation, et j'observerai jusqu'à quel point elle a échoué et elle n'a pas réussi. Donc l'opposition qui a été faite par Satan à la religion réformée a été de plusieurs genres. On peut dire primo, un concile général de l'Église de Rome, secondo, des complots et des artifices secrets, tierso, des guerres ouvertes et des invasions, et je dirais quatrièmement, des oppressions cruelles et des persécutions, et cinquièmement, des opinions corrompues. Donc, premièrement, nous avons la première opposition que je remarquerai. Cette première opposition, c'est celle qui a été faite par le clergé de l'Église de Rome dans un concile général. Ce fut du reste le fameux concile de Trente que le pape convoqua un peu après la Réformation. Dans ce concile se trouvèrent 6 cardinaux, 32 archevêques, 228 évêques, sans parler de beaucoup d'autres membres du clergé romain. Ce concile, en y comprenant toutes ces séances et ces temps de repos, ce concile fut tenu pendant 25 ans. Leurs principales affaires pendant tout ce temps fut de prendre des mesures afin de constituer l'Église romaine en état d'opposition totale aux réformateurs et de détruire la Réformation. Mais il arriva qu'ils ne purent point réussir dans leur entreprise. L'Église réformée, malgré leur grand concile, exista et existe encore. Ainsi l'Église romaine, au lieu de se repentir quand Luther et d'autres serviteurs de Dieu ont fait briller à ses yeux une claire lumière, une lumière qui persiste d'un commun accord dans un concile général, dans sa corruption et dans ses erreurs, ainsi que dans son opposition acharnée contre le royaume de Christ, l'Église romaine a continué de s'y opposer. Ainsi, les pratiques et les doctrines de l'Église romaine, qui avaient été surtout condamnées par les réformés, furent confirmées par les décrets du Concile et par la corruption, à plusieurs égards du reste, tout cela fut poussé plus loin que précédemment. Ils prononcèrent des reproches, même blasphématoires, et carrément des malédictions contre la religion réformée. Toute l'Église réformée fut donc excommuniée et, en plus, anathématisée, un mot que j'ai de la peine à prononcer, donc ils en ont fait des anathèmes, conformément à la prophétie, on peut dire ils blasphémèrent carrément contre Dieu, on peut bien le dire. Ou si Dieu endurcit-il leur cœur dans le but carrément de les autodétruire. Et deuxièmement, les adversaires de la Réformation se sont efforcés de la détruire, donc, au moyen de beaucoup de complots secrets et de conspirations. Il y en a eu plusieurs contre la vie de Luther. Ils ont cherché carrément à se débarrasser de lui. Et comme il était très courageux, il faut bien le dire, il lui arriva souvent de s'exposer dans la cause de Jésus-Christ, mais il fut admirablement préservé de leurs attaques et il mourut en paix dans son lit. Il y a eu évidemment des complots sans nombre pour renverser la religion protestante. Un des plus importants et qui semblait le plus de nature à réussir, cela fut celui du temps du roi Jacques II d'Angleterre. Il y eut alors une conspiration puissante formée contre le roi d'Angleterre et le roi de France, Louis XIV. Tous les deux étaient des ardents soutiens de la papauté pour extirper l'hérésie du Nord, comme ils appelaient la religion protestante, non seulement de l'Angleterre, mais carrément de toute l'Europe. Et ils avaient arrangé leur plan de manière à pouvoir compter sur le succès. Ils ont pensé que si la religion réformée était supprimée dans le royaume d'Angleterre et en Hollande, forteresse du protestantisme, ils pourraient aisément se débarrasser du reste. Et juste au moment où la chose semblait devoir leur réussir et être à la veille de se réaliser, Dieu, dans sa providence, renversa soudainement tous leurs plans au moyen de la révolution qui porta au trône le roi Guillaume et la reine Marie. Et cela a mis un terme à toutes leurs entreprises. La cause protestante fut donc plus fermement établie par la circonstance que la couronne d'Angleterre a passé à la maison de Hanovre, qui était, elle, protestante. Et c'est ainsi qu'ils ont tâtonné dans les ténèbres en plein midi, comme si cela avait été la nuit. Ils n'ont pas pu venir à bout de leur entreprise, et leur royaume fut plein de ténèbres, et ils se sont mordus la langue de douleur. Après cela, il y a eu un nouveau plan de former vers la fin du règne de la reine Anne pour parvenir au même résultat en mettant en avant le prétendant qui était un zélé catholique romain. Mais il fut soudainement et complètement renversé par la Providence, comme l'ont été tous les complots contre la Réformation qui ont été formés au nom du prétendant. Troisièmement, on a souvent fait de l'opposition à la Réformation par des guerres ouvertes carrément et des invasions. Par exemple, l'empereur d'Allemagne avait déclaré la guerre au duc de Saxe et aux hommes principaux qui favorisaient et qui acceptaient les doctrines de Martin Luther. Mais ils n'ont pas pu atteindre leur but, ils n'ont pas pu supprimer la Réformation. Dans le même dessein, quelque temps après, le roi d'Espagne a fait longtemps la guerre à la Hollande, donc aux Pays-Bas, mais toutes ces guerres ont tourné beaucoup au détriment de l'Église romaine en ce qu'elles occasionnèrent l'établissement d'un des empires protestants les plus puissants de l'Europe. Les Espagnols, en envahissant l'Angleterre, ils avaient envahi l'Angleterre du temps d'Élisabeth, se proposaient de déraciner carrément la religion réformée. Aussi portaient-ils sur leur flotte, ils avaient une puissante flotte, des instruments de torture terribles, de tout genre, pour tourmenter les protestants qui ne voudraient pas abandonner leur religion. Mais leur entreprise échoua complètement et, en plus, leur puissante flotte fut en grande partie détruite. Quatrièmement, Satan s'opposa à la Réformation au moyen de cruelles persécutions, celles dont les protestants ont eu à souffrir de la part de l'Église romaine, ont à plusieurs égards laissé de beaucoup en arrière les persécutions païennes. L'Église de Rome a donc renouvelé ses persécutions contre les pauvres vaudois, et des multitudes d'entre eux furent cruellement persécutés et mis à mort. Bientôt après la Réformation, il y a eu de terribles persécutions dans diverses parties de l'Allemagne, et particulièrement en Bohême, où cet état de choses a duré 30 ans. Il y a eu tellement de sang répandu pour cause de religion qu'un auteur contemporain le compare aux grandes eaux d'un fleuve de l'Allemagne. La Pologne, la Lituanie et la Hongrie furent également inondées de sang protestant. Grâce à ces cruelles persécutions, la religion protestante fut tout de même presque entièrement détruite en Bohême, dans le Palatinat et la Hongrie, où elle avait précédemment dominé. La Hollande, les Pays-Bas, furent pendant plusieurs années le théâtre de cruautés, on peut dire de cruautés les plus révoltantes et les plus étonnantes. Et ces pays furent inondés du sang des protestants par les Espagnols qui le tenaient hors en leur pouvoir. Mais dans cette persécution, le diable a manqué le but qu'il se proposait, puisqu'il a abouti à la séparation de la Hollande, qui secoua le joug espagnol et se constitua en État protestant indépendant. Et depuis lors, il a toujours puissamment contribué à la défense de la cause protestante. Alléluia. La France est un autre de ces pays que depuis la formation, on peut dire la réformation donc, à plusieurs égards, plus qu'un autre, a été carrément le théâtre de terribles cruautés que les protestants ont eu à souffrir. Alors qu'ils avaient déjà souffert cruellement dans ce royaume, une persécution a commencé vers les années 1571 sous le règne de Charles IX, le roi de France. Elle fut inaugurée par un cruel massacre dans lequel 70 000 protestants ont péri en quelques jours. Comme le roi s'en vanta terriblement, et dans toutes ses persécutions, il fit périr, ainsi qu'on le suppose, 300 000 martyrs. Et on compte qu'environ vers ce temps-là, dans l'espace de 30 ans, on a fait périr dans ce royaume, pour cause de protestantisme, 39 princes, 148 comtes, 234 barons, 147 518 gentilshommes et 700 060 personnes appartenant au commun peuple. Mais toutes ces persécutions, pour ce qui est de la cruauté raffinée, furent de beaucoup dépassées par ce qui a eu lieu sous le règne de Louis XIV, qui a laissé bien en arrière tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Et comme elles sont durées pendant tout le long du règne de ce roi, elles extirpèrent presque entièrement le protestantisme de ce royaume, dans lequel avait fleuri une multitude d'églises protestantes. Il y a eu aussi une terrible persécution en Angleterre du temps de la reine Marie. Beaucoup d'hommes dans les diverses parties du royaume furent carrément brûlés vifs. L'Écosse fut aussi, pendant plusieurs années, le théâtre de scènes cruelles de la part de la Haute Église, qui ne furent pas beaucoup moins terribles que celles du temps de la reine Marie, et qui les dépassèrent même en plusieurs choses. Elles ont duré jusqu'au moment où les protestants furent délivrés par le roi Guillaume. L'Irlande fut également inondée de sang protestant. Dans les jours du roi Charles Ier d'Angleterre, environ 200 000 protestants furent cruellement mis à mort dans ce royaume en quelques jours. Les papistes qui s'étaient concertés se sont levés tous à la fois pour en finir en tuant tous les protestants du royaume. C'était quelque chose d'inimaginablement terrible. J'en viens maintenant à montrer le succès de l'Évangile dans ces temps de l'Église réformée, en y comprenant primo la réformation dans la doctrine et le culte dans les pays appelés chrétiens, secondo la propagation de l'Évangile parmi les païens, et tierso le réveil de la religion sous la forme d'une piété efficace et pratique. Pour ce qui est de la réformation dans la doctrine, le succès le plus remarquable a eu lieu dernièrement dans l'Empire de Russie, pays d'une grande étendue. Beaucoup de chrétiens de nom se disaient appartenir à l'Église grecque, mais ils étaient très ignorants et très superstitieux. Leur dernier empereur, Pierre le Grand, et l'empereur Alexandre ont entrepris de réformer l'Empire et se sont donné beaucoup de peine pour retirer ces sujets de leurs ténèbres et pour les instruire dans la religion. À cette fin, ils ont établi des écoles, ils ont fait imprimer la Bible dans la langue du pays et ils les ont distribués dans toutes les familles. Et depuis, la Russie est devenue un pays éclairé en comparaison de ce qu'il était 50 ans auparavant. Pour ce qui est de la propagation de l'Évangile parmi les païens, je remarquerai trois choses. Sa propagation en Amérique. On ne savait pas qu'il y a eu une telle partie du monde, bien qu'elle fût très peuplée. Ou si le diable était-il en quelque sorte en possession exclusive de cette partie du monde, il était à l'abri de la lumière de l'Évangile et de toute attaque contre son pouvoir. Les nombreuses nations indiennes adorèrent carrément le diable et des divinités démoniaques comme s'ils étaient dieux, et cela de siècle en siècle, pendant que l'Évangile était confiné dans l'autre hémisphère. On a supposé que le diable surprit et alarmé par le succès de l'Évangile pendant les trois premiers siècles après Jésus-Christ et par la chute de l'Empire païen, voyant qu'il se répandait si promptement et craignant que son empire ne fût renversé dans tout le monde, conduisit donc en Amérique quelques peuplades de l'Ancien Monde pour qu'elles ne pussent pas être atteintes par l'Évangile, dans l'espérance de les posséder en paix et de régner sur elles comme leur Dieu. Or, plusieurs écrivains ont assuré que lorsque les Européens sont venus pour la première fois en Amérique, ils ont trouvé parmi quelques Indiens une tradition disant que leur Dieu les avait conduits sur ce continent et qu'il les avait précédés dans une arche. Quoi qu'il en soit, il est certain que le diable jouit de sa domination sur les pauvres Indiens pendant plusieurs siècles. Mais dans ces derniers temps, Dieu a envoyé son Évangile dans ces contrées, et maintenant, nous avons l'Église chrétienne en Amérique, là où précédemment il y avait eu que, on peut dire, que des épaisses ténèbres et le paganisme. Une grande partie du pays est maintenant plein de Bibles et on y trouve au moins la forme du culte du vrai Dieu et de Jésus-Christ là où précédemment le nom de Jésus-Christ n'avait pas même été prononcé. Et bien que la propagation de l'Évangile parmi les païens dans ce pays n'ait été que peu de choses en comparaison de ce qu'on aurait pu désirer, il y a eu cependant quelque chose qui était digne de remarque. Beaucoup d'Indiens primitivement et dernièrement encore se sont montrés très très disposés à être instruits dans la religion chrétienne. Bien que l'Évangile jusqu'ici ne se soit pas beaucoup répandu parmi les Indiens de l'Amérique, je n'en pense pas moins que la découverte d'une si grande partie du monde et l'établissement de l'Évangile dans ce pays est une de ces choses par lesquelles la providence de Dieu prépare ces temps glorieux de l'Église, alors que le royaume de Satan sera renversé dans toute la terre habitable, de tous côtés et sur tous les continents. Quand ces beaux jours arriveront, alors sans doute, l'Évangile aura de grands succès et tous les habitants de ce monde deviendront des sujets du royaume de Christ, aussi bien que tous les autres bouts de la terre. Il est donc très probable que sa providence a tout arrangé, et cela de manière à ce que la boussole, invention moderne évidemment, qui permet aux hommes de naviguer sur le vaste océan, tandis qu'auparavant, on n'osait pas s'éloigner de la côte. Tout cela a donc pu servir de préparation au projet de Dieu dans ces beaux temps de l'Église, savoir l'envoi de l'Évangile absolument partout où il y a des hommes, à quelque distance que ce soit et à quelque séparé qu'ils puissent être par les mers ou par les montagnes même. Voyez-vous, la religion chrétienne, donc, elle s'est aussi beaucoup propagée dernièrement parmi les païens dans les Indes orientales, même sur les côtes de Malabar. En particulier, beaucoup se sont convertis à l'Évangile à la suite des travaux de missionnaires qui sont venus du Danemark. Ils ont établi des écoles, une presse pour imprimer et d'autres publications dans leur propre langue. Et le tout a très bien réussi. Le dernier succès que je mentionnerai, c'est le réveil de la religion pratique. Et ici, je ne citerai que deux cas. Il y a eu récemment un réveil remarquable de la piété pratique en Allemagne par les soins d'un théologien distingué de ce pays. C'était August Hermann Frank, professeur de théologie à Halle en Saxe. Comme il était un homme très charitable, la grande œuvre que Dieu a accomplie par son moyen a commencé ainsi. Il avait placé un tronc pour les aumônes à la porte de son cabinet d'études. Quelques pites y ont été déposées et il les a consacrées à acheter des livres pour les pauvres. Dieu a favorisé si bien son projet et excita un tel esprit de charité qu'en peu de temps, il fut en état d'élever des écoles publiques pour les enfants pauvres et une maison d'orphelins afin de pourvoir à leurs besoins et à leur instruction. 500 enfants au moins ont pu être ainsi éduqués et instruits dans les connaissances humaines et dans la piété, au moyen de la charité des autres, et le nombre est allé jusque en augmentant pendant plusieurs années. Et tout cela fut suivi d'une admirable réformation et d'un réveil de la religion, de la piété dans la ville de Halle et dans son université, ce qui exerça une très grande influence dans plusieurs endroits de l'Allemagne. Leur exemple excita donc des multitudes à les imiter. Une autre chose qu'il y aurait de l'ingratitude à ne pas mentionner, c'est la remarquable effusion du Saint-Esprit de Dieu qui a eu lieu dernièrement dans cette portion de la Nouvelle-Angleterre. Mais je ne la décrirai pas en détail. Plusieurs en ont été témoins oculaires. Et j'espère que des multitudes ont le sentiment des avantages qui en sont résultés. J'en viens maintenant à considérer l'état actuel des choses dans le monde pour ce qui concerne l'Église de Jésus-Christ et le succès de sa rédemption. Je le ferai en montrant où en sont maintenant les choses comparées à ce qu'elles étaient dans les premiers temps de la Réformation. Et à quelques égards, les choses ont été en empirant, à d'autres, il y a eu un changement en mieux. L'état des choses a été en empirant depuis la Réformation, particulièrement à trois égards. L'Église réformée compte beaucoup moins d'adhérents. On suppose que la Réformation, au commencement, embrassa la moitié de la chrétienté, non compris l'Église grecque, vu que le nombre des protestants égalait celui des Romains. Mais aujourd'hui, il n'en est plus ainsi. L'Église protestante a perdu beaucoup de terrain. Autrefois, il y avait des multitudes de protestants en France. Il y avait dans ce pays beaucoup d'églises protestantes distinguées qui se réunissaient en synode. Et maintenant, une discipline très stricte a été établie. L'Église protestante de France était donc, on peut bien dire, une gloire de la Réformation. Mais aujourd'hui, il en est hélas bien autrement. Cette Église est détruite et dispersée. Et il n'y a là que très peu d'assemblées protestantes dans tout ce royaume. La cause du protestantisme a été très affaiblie en Allemagne également. Il y avait beaucoup de princes protestants dont les successeurs sont maintenant devenus catholiques. C'est particulièrement le cas de l'électeur palatin et de l'électeur de Saxe. Le royaume de Bohême était aussi protestant autrefois, mais aujourd'hui il est au pouvoir des Romains. La Hongrie était ci-devant vraiment protestante, mais le nombre des réformés a beaucoup diminué et les persécutions les ont amoindris. La cause protestante n'a pas gagné du terrain sur Rome dans ces derniers temps. Une autre chose, c'est une grande licence de principes et d'opinions qui prévaut de nos jours. On ne rencontre plus cet esprit d'orthodoxie autrefois dominant. On ne montre que fort peu de zèle pour les mystères et pour les doctrines spirituelles du christianisme. Et on n'en a jamais fait si peu de cas aujourd'hui, particulièrement en Angleterre, principal royaume de la Réformation. Dans ce royaume, on a dans une grande mesure carrément rejeté tous ces principes sur lesquels repose une piété vivante. L'histoire ne fait mention d'aucune époque dans laquelle il y a eu de si nombreuses apostasies parmi ceux qui étaient parvenus à la lumière de l'Évangile. Jamais on n'a rejeté si ouvertement toute religion révélée, jamais on n'a vu tant de railleurs et de moqueurs dans les rangs de ceux qui avaient été élevés sous l'influence de l'Évangile. Pour terminer cette étude aujourd'hui, disons que la vraie piété est beaucoup plus rare qu'au commencement de la Réformation. Une effusion remarquable du Saint-Esprit de Dieu accompagna la première Réformation. Elle n'a eu pas pour unique fruit le passage de grandes multitudes en peu de temps de la papauté à la véritable religion, mais la conversion a eu quand même lieu pour beaucoup. Et de nos jours, bien au contraire, il y a une grande décadence de la piété vivante. Il semble, oui, qu'on en fasse peu de cas. On l'appelle aujourd'hui enthousiasme et fanatisme. On regarde généralement tous ceux qui sont vraiment croyants comme des esprits faibles. Mais le pouvoir et l'influence du pape ont beaucoup diminué. Bien que depuis les premiers temps de la Réformation, il a gagné du terrain en étendant ses domaines, mais maintenant il a beaucoup perdu de son influence dans le monde entier. Nous arrêtons ici pour aujourd'hui et je voudrais, avant de la prière ensemble, vous transmettre quelque chose d'important pour votre édification personnelle et aussi pour vous aider spirituellement. Seigneur, forme-nous à ton image. Façonne notre âme à ta ressemblance. Façonnez les enfants du Seigneur que vous êtes. Cela veut dire tailler et ciseler. Il faut sacrifier ce qui est trop personnel pour retrouver le type. Et ce n'est pas l'affaire de Jésus-Christ seulement, c'est aussi la vôtre. Il s'agit de reconnaître à l'instant, sans faire d'embarras, ce qu'il y a d'égoïsme dans vos désirs, vos mobiles, vos actions, vos propos ou vos pensées, afin d'apporter cela au Seigneur pour que ce soit ôté. C'est une coopération, à la fois c'est son œuvre et la vôtre. Un danger vous guette d'ailleurs, celui de croire que vous n'arriverez jamais et de vous décourager par conséquent. À mesure que vous avancerez en effet, vous découvrirez toujours mieux ce qui reste à faire, des insuffisances dont vous n'êtes pas conscient au départ, ou qui du moins ne vous affligez pas, vous pèsent maintenant et risquent de vous décourager. Donc, courage. Courage, c'est un signe de progrès. Patience aussi, pas seulement quand il s'agit des autres, mais également quand il s'agit de vous-même. Et puis, en constatant la lenteur de vos progrès, en dépit de vos aspirations sincères et de vos efforts, vous apprendrez quelque chose de la patience divine pour en user à l'égard des autres lorsque leurs défauts vous irritent. Donc, en avant et toujours plus haut. Oui, en avant, de la patience, de la persévérance et la volonté de tenir bon. Souvenez-vous que Jésus-Christ est à vos côtés, plein d'amour, plein de patience et tout-puissant. Il est votre capitaine et votre recours certain. Oui, nous œuvrons ensemble, dit le Seigneur, et il partage vos peines, vos échecs et vos difficultés, vos tristesses. Et vous, parce que vous êtes ses amis, vous bénéficiez de sa patience et de sa force. Oui, vous que Jésus-Christ aime. Et maintenant, prions ensemble. Seigneur, nous achevons encore une journée. Nous sommes plus près du terme de notre vie que nous ne l'étions au matin. Chaque heure qui s'écoule est un pas de plus fait vers la tombe et l'éternité qui nous attend. Cette pensée devrait être celle de tous nos instants afin que nous en puissions avoir un cœur sage et que nous ne vivions pas pour ce monde seulement, mais à ce moment où nous nous prosternons devant toi, elle doit saisir encore plus vivement nos âmes et nous rendre attentifs et sérieux. Dans peu d'instants, nous irons nous étendre sur notre couche et le sommeil fermera nos yeux. Mais un jour, qui peut-être est bien près pour chacun de nous, nous nous y étendrons encore, mais pour ne plus nous réveiller, la mort glacera nos membres et les rendra immobiles. Nos yeux se fermeront pour ne plus se rouvrir que au jour redoutable de la résurrection. Ô Dieu, que la certitude de cette heure solennelle nous fasse dès maintenant recourir à ta grâce et au salut que tu daignes nous offrir. Que ce soit pour mourir avec espoir, confiance et paix, que nous vivions dès à présent, car savons-nous à quelle heure notre âme devra paraître devant toi? Puisse donc la pensée de notre dernier sommeil toujours occuper nos âmes lorsque nous allons nous livrer au repos. Saint-Esprit de paix et de pureté, viens agir dans nos cœurs et les garder par ton pouvoir. Esprit de vérité, dissipe nos doutes, dissipe nos craintes et subjugue notre incrédulité. Esprit consolateur, apaise nos souffrances, adoucis nos afflictions, ôte à nos larmes l'amertume qui déchire le cœur. Seigneur, aie pitié de nous et attire-nous à toi. Sauveur de nos âmes, sois notre appui et dans la vie et dans la mort. Nous nous remettons avec un abandon filial entre tes mains divines. Dispose de nous selon ta volonté, mais préserve-nous du malheur de t'offenser. Que toutes choses, même les songes de la nuit, concourent à nous rapprocher uniquement de toi. Seigneur, protège tes faibles enfants et bénis-les dans ta miséricorde. Amen. Amen. Et maintenant, je vais essayer de vous mettre quelques chants d'un très lointain passé, 1962. Et croyez-moi, en ce temps-là, il n'y avait pas ni cassette, ni CD. Il y avait uniquement des moyens d'enregistrer à bande. Et Évidemment, la qualité n'est pas la même. Que le Seigneur vous bénisse avec ces chants et avec ce que vous venez d'entendre. À bientôt à nouveau, demain matin, Dieu voulant.
Come on, everybody, reach out and greet somebody in Jesus' name. Don't just shake hands, minister the right hand of fellowship and share something special that the Lord's done for you. Has he done anything good for you lately? Well, tell somebody, come on. Chose you for his own. Be kind to one another and forgive one another as the Lord has forgiven you. Love one another with a pure heart, fervently. Teach and admonish one another in psalms, hymns, and spiritual songs. Be gentle with one another and patient. Have compassion for one another. Rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. Share your belongings with your needy brothers, and open your homes to strangers. Bear one another's burdens, and so fulfill the law. Should be like one big happy family, loving one another with tender hearts and humble minds. Honor one another, never thinking of yourselves as better than another. Show respect to all alike, without regard to race or station. Don't live to please yourselves, but to please one another and to build each other up in the faith. Don't judge one another. Instead, be careful to do nothing that might cause a brother to stumble. And should a brother stumble and fall into sin, lead him gently back into the way, considering yourselves, lest you also be tempted. Confess your faults one to another and pray for one another, so that you may be healed. Loved you and chose you for his own. Agree with one another and live together in perfect peace and harmony. Let there be no divisions among you. Be of one mind, completely united in thought and purpose. Don't neglect to assemble with one another, but encourage one another, especially since you see that the coming of the Lord is near. Remind one another of these things every day, while there is still time, so that none of you will become hardened by the deceitful glamour of sin.